et déjà la fameuse fraternité des Rose-Croix.
Après venait le meilleur, et au retour d'Amparo, j'étais déjà en mesure de lui annoncer des événements admirables. « C'est une histoire incroyable ! Les manifestes sortent à une époque où les textes de ce genre pullulaient. Tout le monde cherche un renouveau, un siècle d'or, un pays de cocagne de l'esprit. » Qui farfouille dans les textes magiques, qui fait transpirer les fourneaux pour préparer les métaux, qui cherche à dominer les étoiles, qui élabore des alphabets secrets et des langues universelles. À Prague, Rodolphe II transforme la cour en un laboratoire alchimique. Il invite Comenius et John Dee, l'astrologue de la cour d'Angleterre qui avait révélé tous les secrets du cosmos en quelques pages d'une Monas Hieroglyphica. Je te jure que c'est bien le titre, et Monas n'indique pas ton sexe en vénitien, mais signifie... Monade.
J'ai dit quelque chose ?
Le médecin de Rodolphe II est ce Michael Mayer qui écrit un livre d'emblèmes visuels et musicaux, l'Atlanta Fougiance, une fête philosophale de l'œuf, des dragons qui se mordent la queue, des sphinx, rien n'est aussi lumineux que le chiffre secret. Tout est hiéroglyphique de quelque chose d'autre. Tu te rends compte ? Galilée jette des pierres dans la tour de Pise. Richelieu joue au Monopoly avec la moitié de l'Europe, et ici, tous de circuler, les yeux écarquillés pour lire les signatures du monde. Vous m'en comptez de belles, vous. Il est bien question de la chute des corps, ci-dessous, mieux ci-dessus. Il y a bien autre chose. À présent, je vous le dis, abracadabra. Torricelli fabriquait le baromètre et eux faisaient des balais, des jeux d'eau et des feux d'artifice dans l'Hortus Palatinus de Heidelberg. Et la guerre de 30 ans était sur le point d'éclater.
Qui sait comme elle était contente, Mère Courage.
Mais eux non plus ne se donnent pas toujours du bon temps. L'électeur palatin, en 19, accepte la couronne de Bohême. Je crois qu'il le fait parce qu'il meurt d'envie de régner sur Prague, ville magique. Mais les Habsbourg, un an après, le clouent à la Montagne Blanche. À Prague, on massacre les protestants. Comenius voit sa maison, sa bibliothèque brûlée. On lui assassine sa femme et son fils, et il s'enfuit de cour en cour, allant, répétant comme elle était grande et pleine d'espoir, l'idée des Rose-Croix.
Et le pauvre, lui aussi, tu voulais qu'il se console avec le baromètre ? Mais excuse-moi un instant, tu sais que nous les femmes, nous ne saisissons pas tout de suite comme vous. Qui a écrit les manifestes ?
Le plus beau, c'est qu'on ne le sait pas.
Laisse-moi comprendre. Gratte-moi la rose-croix. Non, non, entre les deux omoplates. Non, plus haut. Non, plus à gauche. Voilà, là.
Or donc, dans ce milieu allemand, il y a des personnages incroyables. Voici Simon Studion, qui écrit « La Naumétria », un traité occulte sur les mesures du temple de Salomon. Heinrich Kunrat, qui écrit « Un amphithéâtrum sapientiae eternae », plein d'allégories avec des alphabets hébreux et des cavernes kabbalistiques qui doivent avoir inspiré les auteurs de la Fama. Ces derniers sont probablement des amis d'un de ces 10 000 conventicules d'utopistes de la Renaissance chrétienne. La rumeur publique veut que l'auteur soit un certain Johann Valentin Andrea. Et l'année suivante, il publiera « Les noces chimiques » de Christian Rosenkreutz. Mais il l'avait écrit dans sa jeunesse. Donc, l'idée des Rose-Croix lui trottait depuis longtemps dans la tête. Mais autour de lui, à Tübingen, il y avait d'autres enthousiastes. Ils rêvaient de la République de Christianople. Peut-être se sont-ils mis tous ensemble. Mais il paraît qu'ils l'ont fait pour plaisanter, par jeu. Ils ne pensaient pas du tout créer le pandémonium qu'ils ont créé. Andrea passera ensuite sa vie à jurer que ça n'était pas lui qui avait écrit les manifestes, que de toute façon c'était un lusus, un ludibrium, un coup de Goliard. Il y perd sa réputation académique, en rage, dit que les Rose-Croix, si même ils existaient, étaient tous des imposteurs. Rien n'y fait. À peine les manifestes sortent, on dirait que les gens n'attendent que ça. Les doctes de toute l'Europe écrivent vraiment aux Rose-Croix. Et comme ils ne savent pas où les trouver, ils envoient des lettres ouvertes, des opuscules, des livres imprimés. Mayer publie tout de suite la même année un Arcana Arcanissima, où il ne mentionne pas les Rose-Croix, mais tout le monde est convaincu qu'il parle d'eux et en sait plus long qu'il ne veut bien le dire. Certains se vantent, ils disent qu'ils avaient déjà lu la Fama en manuscrit. Je ne crois pas que c'était une mince affaire que de préparer un livre à cette époque, parfois même avec des gravures. Mais Robert Fludd, en 1616, et il écrit en Angleterre et imprime à Leeds, calcule aussi le temps des voyages pour les épreuves, fait circuler une apologia compendiaria fraternitatem des Rosae Crusae, suspicionis et infamais maculis aspersam, veritatem quasi fluctibus abluens et abstergens. Pour défendre les Rose-Croix et les libérer des soupçons, des tâches dont ils ont été gratifiés. Et cela veut dire qu'un débat furieux avait déjà eu lieu entre Bohême, Allemagne, Angleterre, Hollande, le tout avec des courriers à cheval et des érudits itinérants.
Et les Rose-Croix ?
Un silence de mort. Poste 120 agnos patebo, mon œil. Ils observent du néant de leur palais. Je crois que c'est précisément leur silence qui échauffe les esprits. S'ils ne répondent pas, cela veut dire qu'ils sont vraiment là. En 1617, Flood écrit un Tractatus Apologeticus Integritatem Societatis des Rosa Crusae Defendens. Et dans un De Naturae Secretis de 1618, on dit qu'est venu le moment de dévoiler le secret des Rose-Croix.
Et il le dévoile ?
Penses-tu, il le complique, parce qu'il découvre que si l'on soustrait de 1618 les 188 années promises par les Rose-Croix, on obtient 1430, qui est l'année où est institué l'ordre de la Toison d'or.
Quel rapport ?
Je ne comprends pas les 188 années, parce qu'il devrait y en avoir 120. Mais quand tu veux faire des soustractions et des additions mystiques, tu retombes toujours sur tes pieds. Quant à la Toison d'or, c'est celle des Argonautes. Et j'ai appris de sources sûres qu'elle a quelque chose à voir avec le Saint Graal. Et donc, si tu permets, avec les Templiers. Mais ça n'est pas fini. Entre 1617 et 1619, Flood, qui évidemment publiait encore plus que Barbara Cartland, fait imprimer 4 autres livres, parmi lesquels son Nutriusque Cosmi Historia, quelque chose comme de courts aperçus sur l'univers, illustré, tout rose et croix.